Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Gawain Blaze, jeu libre d'enquête narrative sur Android pour sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles. C'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique « Qui libérait d'autres que du logiciel » avec Antanac, et aussi une interview du président de l'association Exodus Privacy qui fournit des outils pour analyser les applications Android et lister les éventuels pisteurs. Donc la protection des données personnelles sur mobile à l'honneur dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavous.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, on vous pose toutes questions. Nous sommes mardi 8 mars 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet. Bonjour Fred.
Bonjour, belle émission à vous.
Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique « Que libérer d'autres que du logiciel » avec Antanac. Isabelle Carrère est déjà sur place et prête à prendre la parole. Bonjour Isabelle, à toi.
Bonjour, merci beaucoup. Merci de votre accueil renouvelé. Bon, j'avais prévu aujourd'hui d'être avec quelqu'un du réseau REFIS, réseau francilien pour une informatique solidaire, mais il a eu un empêchement. Donc du coup, j'ai changé de sujet, parce que parler du réseau tout seul, c'est quand même moins drôle. Juste, je vais quand même en raconter un peu quelque chose. Dans une autre chronique, c'était Brice du Garage Numérique qui était venu dans le 20e et qui était venu avec moi pour discuter et échanger sur ce qu'on faisait. Donc on fera ça dans une prochaine émission, de manière à ce que d'autres structures puissent aussi parler avec Antanac de ce réseau. Juste, ce que je peux faire aujourd'hui quand même, c'est confirmer que ça s'harmonise plutôt bien, petit à petit, avec des vrais échanges de pratiques, en plus des collectes partagées de matériel qu'on récupère pour le reconditionner. Et donc, on a également des échanges de réflexion sur les incidences des injonctions numériques, et ça va être mon sujet d'aujourd'hui. Injonctions institutionnelles ou volonté affichée de l'inclusion numérique. En tout cas, dans le réseau, on est désormais 9 structures franciliennes. Et d'ailleurs, si vous, auditeurs, connaissez des associations ou des collectifs qui travaillent sur des opérations de reconditionnement comme nous et qui se situent en Ile-de-France, parce qu'on ne peut pas être quand même sur l'ensemble du territoire, là, notre petit réseau, et bien surtout, n'hésitez pas à leur en parler et qu'ils nous rejoignent. Et plus on est nombreux à pouvoir partager des choses là-dessus, mieux ce sera. En tout cas, les partages de pratiques, c'est donc mon sujet du jour, en tout cas, puisque je voulais aborder ça, mais sur un autre angle, sur un autre axe. À Antanac, on tente régulièrement de réfléchir au quotidien et de mettre en pratique l'idée que le politique est partout dans nos vies. J'aime à dire régulièrement que tout est politique, hein, ce qu'on mange, ce qu'on lit, ce qu'on fait, et notamment en regard des usages numériques. Tout cela est éminemment politique. Pas politique au sens politicien, pas faire de la politique, ni dans celui du fantasme qui continue d'être très volubile, par exemple sur les réseaux sociaux. Hein, on a un bout d'idée. Pas encore de pensée, mais une idée, un reflux nerveux ou émotionnel, un coup à porter sur quelqu'un ou sur quelque chose, et on croit que c'est être libre que de déverser ça sur les serveurs. Alors, est-ce que affirmer des certitudes, exposer des ressentiments ou même ses comportements, seul dans son coin, devant son ordi, ou avec dans la main son téléphone, connecté ou un produit, est-ce que ça produit quelque chose? Est-ce qu'on produit vraiment de la pensée? Sans doute que non. Comme le relevait il y a quelque temps Éric Sadin, que vous connaissez peut-être, qui a écrit de nombreuses choses sur le numérique, sans doute est-ce qu'on est même en train de, en faisant ça, de casser la possibilité d'engagement politique collectif et individuel. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de remettre au goût du jour, d'expliquer ou de partager à Antanac. C'est-à-dire que, en fait, c'est assez simple de se morfondre dans l'immédiateté, dans la réaction incessante et bruyante. En tout cas, c'est plus simple que de penser ensemble. Or, de notre point de vue, on a une responsabilité collective, globale, de débattre partout, sur tous les lieux de vie, les lieux de travail, de scolarité, associatifs et autres, et de se mobiliser pour pouvoir dire les mots de ce qu'on accepte et de ce qu'on refuse dans le champ de la soi-disant toute-puissance numérique. Et je dis bien de débattre. Il ne s'agit pas d'avoir juste de juger ou d'avoir des idées arrêtées, mais vraiment de débattre là-dessus. En fait, l'individualisme libéral est sans doute à son comble avec les modes numériques proposés. On nous assigne des places toutes faites, en acceptant d'être assistés en permanence grâce à des outils dits connectés ou des options qui nous sont données comme étant soit les seules, soit les meilleures. On nous guide, on nous entraîne dans des flux dans lesquels on se perd, sans parler de l'abondance de contenu, puisque c'est le terme désormais consacré. Contenus qui parfois n'en sont pas, mais occupent l'espace vivant et vital qu'on ne reconnaît plus. Tous les jours à Antanac, on s'aperçoit des dégâts que cela produit. Les gens souvent sont fracassés, les relations sont perturbées, et les classes sociales sont masquées, parce qu'on fait comme si on autorisait toutes les paroles, mais en fait, on n'en entend pas beaucoup, pas beaucoup plus. On fait croire que tout le monde peut s'exprimer librement et qu'on posera, bien sûr, on portera une attention très importante à chacun, chacune, et c'est pas sûr que ça soit le cas. De plus en plus de personnes qui viennent nous voir sont complètement isolées, pas simplement isolées parce que sans famille ou sans assez d'amis, non, isolées psychiquement et réellement dans un monde asphyxiant. Et parfois même, elles se rendent même plus compte qu'elles le sont, qu'elles ont suivi des modalités très très concrètes dans leur vie qui les éloignent du social, de la réflexion politique, des liens qui nous unissent et de l'interdépendance vitale entre nous tous et toutes. Et c'est peut-être là la véritable écologie, au-delà de la question des déchets et de la question du serveur et de l'électricité que ça consomme, etc. Peut-être que c'est celle-là l'écologie qui est intéressante, pas celle qui continue de tenir une dichotomie, entre une séparation entre nature et culture, pas celle qui est évidemment récupérée par le capitalisme, qui en fait un nouveau blabla, l'environnement par-ci, l'effondrement par-là, la sauvegarde de la planète pour plus de profit, mais bien celle qui pourrait soutenir une vision des biens, des liens entretenus entre nous et entre nos esprits et nos corps, l'équilibre et les harmonies, disharmonies entre tous les mondes qui sont vivants, humains ou non humains. Bon, pardon de m'envoler un peu lyrique du jour, mais en fait, c'est parce que tout ça est très concret. C'est-à-dire que c'est très réel et on est à chaque fois en Antanac joyeux et joyeuse quand on arrive à plusieurs, dans notre trop petit local, à faire en sorte que surgissent des billes de compréhension sur des choix. J'insiste sur ce terme, des choix. Oui, on peut continuer de choisir ce qu'on souhaite, de donner à vivre dans le temps court où on est là, avec soi et avec les autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a urgence à le faire, à ne pas laisser passer les opportunités qu'on a tous de le faire, tous et toutes. Ah oui, j'aurais pu mettre un peu plus de féminin, puisque c'est la journée, hein, normalement. La journée des droits des femmes. Femmes dont on a déjà dit ici qu'elles n'étaient pas très très nombreuses dans le monde du numérique, mais on s'est réjoui quand il y en a. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant qu'elles non plus ne s'extraient pas de ce champ-là et qu'elles puissent y agir.
Merci Isabelle pour cette chronique, donc avec un retour d'espérance d'Antanac, un appel à faire réseau local et avec des réflexions importantes. Donc merci encore et je te dis à la prochaine chronique.
Merci beaucoup, à bientôt.
Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de Gao and Blaze, jeu mobile pour sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles. L'un de nos invités d'aujourd'hui nous a indiqué aimer les musiques folk européennes, genre air irlandais. Pour notre première pause musicale, je vais donc tout de suite penser au groupe belge Sailly Moss, qui fait du folk rock d'inspiration celtique, et notamment à leur reprise d'une chanson traditionnelle irlandaise. Nous allons donc écouter The Next Market Day par Sailly Moss, et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Markets to learn. She went for her mummy, three hides of fine yarn. She met with a young lord down the highway, and it made this young lady too dirty and stray. Sit down beside me, I mean you no harm. Sit down beside me, there is new tune to learn. Here is Trigginins, your mummy to play. So lay by your young till the next market day.
down beside me, there is new tune to learn. Here is Trigan, is your mommy to pay? So lay by all young till the next market day.
D'écouter The Next Market Day par Kaylee Moss avec un K, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui aujourd'hui porte sur Gao & Blaze, jeu libre d'enquête narrative sur Android pour sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Nous parlerons de Gao & Blaze avec Natalia Calderon-Beltran et Quentin Arada de la coopérative de formation et recherche La Boussole, qui est éditrice du jeu, et avec Claire Divois, bêta-testeuse du jeu. Quentin et Claire sont au studio avec moi. Bonjour.
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 Natalia participe à distance normalement via l'outil de conférence Mumble. Bonjour Natalia.
Bonjour à tous et toutes.
Je vais bien sûr faire en sorte de repartir la parole entre vous. Si à un moment vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à m'interpeller en disant tout simplement Isa. Cela va surtout pour Natalia que je ne peux pas voir. Donc, comme d'habitude, je vous propose de commencer par une question très simple. Qui êtes-vous ? Une courte présentation. On va commencer par Quentin.
Oui, ben bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Quentin Harada. J'ai travaillé dans le secteur de l'éducation populaire et de la solidarité avant de cofonder la coopérative avec ma collègue Natalia. Depuis très longtemps, en fait, je suis intéressé par les questions du logiciel libre que j'utilise à titre personnel aussi depuis longtemps. Et accessoirement, je suis aussi très joueur, que ce soit jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, sur table ou grandeur nature. Bref, j'ai beaucoup de palettes et de pratiques ludiques. Et voilà, sont un petit peu tous ces éléments qui, au bout d'un moment, se sont mélangés et qui ont permis que je puisse contribuer et lancer à plusieurs ce projet de Gao & Blaze.
Merci. Natalia, une courte présentation.
Oui, alors pour ma part, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et j'ai pu mener une recherche sur les low-tech et comment justement les technologies peuvent être ouvertes et rendre la vie meilleure. Comme l'a dit mon collègue Quentin, on a réuni vraiment plein de compétences plutôt très variées pour aboutir à ce projet. Et en particulier, j'ai été en charge de toute la partie recherche, mais étant multicasquette aussi sur les contenus pédagogiques, sur le suivi du développement, sur la gestion administrative, la traduction. Et c'est pour ça que je suis très de vous parler de ce jeu pour Android.
Merci. Et puis, nous avons Claire au studio.
Oui, donc moi je connais la boussole parce que je suis intervenue avec eux dans d'autres cadres que sur l'informatique, rien à voir. Et puis j'ai vu qu'ils cherchaient des bêta-testeurs et des bêta-testeuses pour le jeu. Et comme moi aussi j'adore les jeux, que ce soit les jeux vidéo ou les jeux de société, et que je suis aussi intéressée par tout ce qui est numérique, autant du point de vue privé que professionnel, et ben je me suis dit ben, pourquoi pas prendre un peu de mon temps pour les aider à développer ce jeu et tester tout ça.
Parfait. Bah, merci pour ce premier tour de parole pour vous présenter. Maintenant, je vous propose d'aller au cœur du sujet, c'est-à-dire Gawain Blaze. Qu'est-ce que c'est ? Une description déjà du jeu, en quoi ça consiste, quelle est la cible du jeu. Qui veut prendre la parole ? Peut-être Quentin ou Natalia ?
Oui, bah, je peux commencer et Natalia m'aidera. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est deux choses, Gawain Blaze. En fait, il y a un jeu vidéo, qui est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, et il y a aussi un projet de recherche qui va avec, et peut-être sur le projet de recherche, je laisserai Natalia préciser, vu qu'elle est en charge de ces questions-là, notamment. Donc, ce jeu vidéo, en fait, on a eu cette idée parce que à la fois en tant que personne et à titre bénévole, ça fait longtemps qu'on a pu participer à des collectifs ou des initiatives pour essayer de sensibiliser sur la question de la protection des données de manière générale, que ce soit des chiffres aux fêtes, d'autres initiatives associatives.
Chiffres aux fêtes ?
Oui.
Pour le public ?
Oui, alors qu'est-ce que c'est que les chiffres aux fêtes ? Ce sont des événements en fait où on peut venir apprendre un petit peu, en savoir plus sur comment configurer ses téléphones, ses ordinateurs pour protéger sa vie privée et essayer. C'est une sorte d'atelier d'auto-apprentissage sur les questions numériques avec vraiment un axe donné à la protection de la vie privée. Et donc, on a remarqué quand même que c'était difficile de toucher les publics qui ne sont pas intéressés par cette question. Parce qu'en fait, les publics qui se rendent dans ce type d'événement sont des gens qui sont déjà intéressés et qui cherchent à en savoir plus, gagner des compétences, etc. Donc là, c'est facile, il suffit de partager des savoirs et des savoir-faire et ça marche bien. Mais quand on est face à des gens qui peut-être n'ont pas trop d'idées de quels peuvent être les enjeux autour de la protection de la vie privée, tout simplement que ça n'intéresse pas, ou plus concrètement des gens qui vont dire « je n'ai rien à cacher », c'est quand même une phrase qui peut revenir assez souvent, eh bien là, ça nous semblait difficile d'aller aborder ces questions-là. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de passer par le jeu vidéo, vu que c'est quand même très utilisé, ça, on peut l'installer sur téléphone, donc directement aussi sur l'appareil qui va capter énormément de données. Et l'idée, c'était vraiment de promouvoir un vrai jeu, c'est-à-dire que ce soit avant tout un jeu, c'est-à-dire quelque chose avec lequel on s'amuse, parce que des fois, on peut avoir envie d'abord de faire passer un message et après de s'amuser, et en général, ça donne quelque chose qui n'est pas très amusant, et donc on rate un peu le coche. Donc là, vraiment, on a voulu faire quelque chose de sympa, d'amusant, et seulement dans un deuxième temps de se dire bah tiens, on va en profiter pour essayer de parler de cette question là ce qui dans l'idée nous permet d'aller toucher des gens que la thématique intéresse pas plus que ça, mais qui aiment bien jouer par exemple, et d'ouvrir une porte pour essayer de discuter, de sensibiliser sur ces questions là.
Très bien, donc quand tu parles de personnes qui sont pas forcément très sensibilisées, est-ce que c'est plutôt destiné aux jeunes ou pas que?
Alors on a une cible qui est plutôt large, on a visé la cible des 12-40 ans. Alors vous allez me demander pourquoi, c'est rarement une fourchette qui est utilisée. En fait elle correspond, selon les statistiques en France, au gros des troupes de personnes qui utilisent des smartphones. Et donc on a vraiment voulu viser ce public-là, parce qu'il était directement concerné, aussi parce que aujourd'hui c'est un public qui va pouvoir assez facilement jouer à des jeux vidéo, à des applis, sur Android et tout. Et donc c'est un peu dans cette idée-là qu'on a développé le jeu.
Natalia, je crois qu'il y a une page sur le site de la boussole qui parle justement de ce dont on t'a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y a des personnes qui disent je n'ai rien à cacher. Un profilage de personnes type en fait qui pensent que la protection des données personnelles c'est pas un jeu qui la concerne. Tu veux peut-être on nous dire quelque chose de plus?
Oui, alors effectivement, ces personnes-là qui disent je n'ai rien à cacher sont la plupart d'entre nous, et on peut tout à fait les comprendre. En réalité, on a envie de dire qu'on n'a rien à se reprocher en général dans notre vie, et quand on pense à protéger les données personnelles, la première chose qui peut nous venir à l'esprit, c'est soit des personnes qui habitent dans des pays en guerre, soit des journalistes qui auraient accès à des informations un peu confidentielles ou ce genre de profil, et nous on se sent vraiment très très loin de ces personnes-là. Et ce que nous défendons à la boussole, c'est que on n'a pas besoin d'être ces personnes-là qui vivent soit dans des contextes très éloignés ou dans des situations dangereuses ou avoir un profil très spécifique de journaliste ou de lanceur d'alerte, mais que la protection des données personnelles, c'est, si on faisait un parallèle, c'est comme mettre des rideaux à sa fenêtre. C'est pas parce qu'on fait des choses à se reprocher dans son appartement qu'on met des fenêtres. Et qu'on met des rideaux à ses fenêtres. C'est simplement parce qu'on veut préserver une intimité, et que le fait de vouloir préserver une intimité, ça ne veut pas dire qu'on a des choses à cacher et à se reprocher. Et donc cette idée qu'on protège sa vie privée seulement quand on a des choses à cacher, c'est quelque chose qui, à la boussole en tout cas, nous touche beaucoup, et on a envie de dire aux auditeurs et auditrices qu'on a le droit à protéger son intimité, et que on n'a pas besoin d'être quelqu'un, un profil de personne qui a des secrets d'État pour vouloir cultiver cette envie de protéger son intimité.
Quentin disait aussi vous avez choisi le jeu parce que vous êtes dit peut-être que c'est une façon de toucher des personnes justement qui se sont pas concernées. Et tu disais par exemple que vous avez choisi le jeu aussi parce que tu m'écrivais que assommer d'informations ne marche pas toujours, et à culpabiliser et accabler ne marche pas toujours. Donc là, ça aussi, c'est le fruit, j'imagine, d'une recherche, d'un constat que vous avez fait par rapport à l'outil qu'on choisit pour sensibiliser.
Oui, tout à fait. Quand j'écrivais ça, c'est vraiment dans l'idée que après avoir passé plusieurs années à justement diffuser des savoirs sur comment protéger sa vie privée, on est arrivé à ce que disait Quentin au début de l'émission, c'est-à-dire que certaines personnes se rendent compte que c'est difficile d'avoir accès à certaines informations, se décourage très très vite en voyant la quantité de choses à mettre en place pour protéger ses données personnelles, et abandonne très vite. Et du coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup réfléchi et on s'est dit, essayons une autre méthode.
Très bien. Pour donner la parole à Claire, la bêta testeuse qui peut témoigner de son expérience, tu disais que toi, tu étais déjà quand même un petit peu sensibilisée à ces sujets, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Moi, je suis déjà... Enfin, j'ai quand même appris des choses en faisant le jeu, mais je suis déjà intéressée. Je pense que je ne fais pas spécialement partie du public cible du coup du jeu, mais j'ai quand même appris des choses en le faisant, donc...
Oui, toi, tu étais plutôt sur la partie, déjà, le jeu qui doit être marrant, parce que ça doit être aussi rigolo à faire, pour, ça doit être ludique, et pour vérifier, effectivement, qu'on puisse apprendre des choses, j'imagine, aussi. Et par rapport au jeu, est-ce qu'on peut dévoiler quelque chose, c'est-à-dire en quoi ça consiste vraiment? Alors, je sais qu'il y a une trame qu'il ne faut pas dévoiler, parce que c'est un jeu d'enquête narrative, donc c'est marrant effectivement de le faire soi-même. Moi-même, j'ai testé le jeu, je peux vous dire que c'est très sympa, donc je vous invite vraiment, on vous dira plus tard comment faire pour jouer à votre tour. Mais est-ce qu'on peut dévoiler quelque chose, en quoi ça consiste?
Oui, alors... ça commence comme un univers en fait de petits jeux qui s'appelle les Gao Games, et on s'est inspiré pour ça un petit peu de grosses productions à succès sur lesquelles les gens jouent beaucoup pour se détendre en fait. Donc on s'est inspiré de petits jeux comme ça qui ont la particularité d'utiliser un petit peu le fonctionnement du téléphone, et notamment son système de permission pour fonctionner, pour être interactif. Et à côté de ces jeux-là, y a toute une communauté de jeux avec qui on peut discuter, alors qu'ils sont des personnages fictifs, mais on peut creuser un petit peu les relations, en savoir plus, et au bout d'un un moment, il va y avoir une enquête en fait qui va démarrer à travers ces discussions-là et qui va nous amener à découvrir un petit peu les dessous en fait de cette communauté de jeu et les dessous quelque part de ces industries du jeu qui ont l'air mignons, simples et puis qui récupèrent des données sur votre téléphone par exemple.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté vraiment immersif. Dès qu'on commence à jouer, on est directement intégré dans cette communauté, justement, et on se demande presque, mais est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est dans le jeu ? Et quand on bêta-teste, il y a aussi le côté, le jeu, c'est aussi de trouver les bugs du jeu. Et donc, ça, il n'y a plus maintenant, enfin, j'espère qu'il n'y a plus de bugs.
J'ai même pas besoin de poser la question parce que juste demander à Claire, parce que bêta testeur ça veut dire que je teste le jeu, donc effectivement je trouve les bugs et éventuellement les anomalies, je remonte les choses. Est-ce que tu as je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment une expérience immersive dans le sens qu'on a vraiment l'impression au départ de parler avec des vrais gens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soin je trouve aussi dans la formulation des textes et en plus, est-ce que je sais pas si je peux dévoiler ça, mais il y a même une la possibilité de répondre, de choisir quelle réponse donner. C'est-à-dire que effectivement, on peut personnaliser l'expérience. Donc, c'est vraiment bien, bien construit. Et est-ce que tu as, par exemple, aussi, est-ce que tu as intervenu aussi sur les contenus des messages, genre non, mais ça sonne pas très bien, ou alors ça c'est trop long, je sais pas.
Il y a quelques textes au début qui n'étaient pas tout à fait terminés. Je sais que j'ai, par exemple, fait remarquer qu'au début on n'était pas très sûr est-ce qu'on était une femme ou un homme, parce que tout était assez neutre en fait, et donc je sais que ça a été modifié après pour justement que ce soit assumé, que ce soit non-genré. Et donc là-dessus, je pense que ça a peut-être été par les retours des bêta-testeurs et bêta-testeuses que ça a eu lieu. Mais sinon, non, je pense pas avoir beaucoup influencé sur le contenu même du jeu.
D'accord. Natalia, est-ce que ça a été simple de recruter des personnes pour ce jeu ?
Alors pour la partie bêta test, je vais pas vous dire qu'on a eu un million de bêta testeurs et bêta testeuses. En revanche, on a eu un groupe vraiment solidaire et très très engagé pour justement faire émerger ce jeu qui est un peu un ovni, parce que à notre connaissance, c'est la première fois qu'on fait un jeu sur cette thématique pour Android. Donc on a tout de suite eu des personnes qui étaient vraiment très très motivées, donc Claire qui est dans le studio et qui nous ont vraiment aidés, parce que faire un jeu c'est compliqué, tester un jeu sur Android ça l'est encore plus, notamment parce que il y a différentes versions d'Android et pour chaque version d'Android il y a des téléphones qui sont différents, donc des comportements qui vont être différents d'un appareil à un autre, et en plus si on veut rajouter de la complexité à tout ça, nous on voulait faire le pari de faire un jeu qui soit compatible avec beaucoup de versions d'Android possibles, et ça rajoutait de la complexité au développement du jeu, et comme on n'aime pas faire les choses simples à la boussole, on a aussi voulu faire un jeu en logiciel libre, c'est-à-dire que on a voulu vraiment coder un jeu en direct sur le système Android, ce qui rajoute de la difficulté supplémentaire, mais nous on tenait vraiment à ce que ce soit du pur logiciel libre et pas passer par des, alors je parle peut-être de manière un peu technique, mais passer par des surcouches comme se font les jeux aujourd'hui, parce que si, alors pour les personnes qui ne le savent pas, aujourd'hui faire des jeux peut être fait de manière très simple avec des plateformes où il suffit simplement d'ajouter les éléments graphiques et des plateformes non libre gère tout ça, mais nous on tenait vraiment à faire du logiciel libre, ce qui impliquait de trouver des développeurs très spécifiques et de travailler directement au cœur d'Android, ce qui compliquait beaucoup les réactions et les rendus, et on contrôlait pas tout, donc on avait vraiment besoin de tester à plein de moments, à plein d'endroits, et des fois ce qui marchait dans une version d'Android ne marchait pas dans la suivante et donc tout ça nous a pris un certain temps, mais heureusement nous avions des bêta-testeurs et bêta-testeuses de choc.
Et tu parlais de développeurs, ce serait intéressant parce que la coopérative La Boussole, en fait, c'est une coopérative de formation et de recherche. Donc, vous n'avez pas les compétences en interne pour développer un jeu. Donc, ça veut dire que mettre en place aussi un partenariat avec quelqu'un qui produit le jeu. Bien évidemment, c'est scénarisé par vous, j'imagine, mais voilà, après, il faut coder. Et comment ça s'est passé? Comment vous avez trouvé, qui est votre partenaire ou les partenaires? Comment vous les avez trouvés, choisis? Compta peut-être.
Alors il y a eu deux équipes de développement qui sont intervenues sur le jeu. Donc à l'heure actuelle, on va dire le développeur principal, c'est Alvaro Pérez Páez, qui est un développeur qui travaille avec nous depuis la Colombie, qu'on connaît via des réseaux, notamment sur le jeu vidéo. Donc on a collaboré avec plein de gens, en fait. Au total, il y a eu une dizaine de personnes qui sont intervenues sur différentes tâches, etc. Et l'idée, c'était vraiment déjà d'être très clair sur la démarche dès le début, parce qu'en fait, c'est vrai que ça développer directement le logiciel libre, ça va changer pas mal d'habitudes. On va devoir se passer de certaines plateformes, on va devoir ne pas passer, par exemple, par Unity pour développer le jeu vidéo. Mais
ces développeurs étaient déjà des développeurs sous le libre ou vous les avez incités à utiliser les logiciels libres? Ça s'est passé. Ils étaient déjà convaincus et...
On a eu les deux cas de figure. Il y a eu la première équipe de développement connaissait déjà pas mal le logiciel libre et la deuxième équipe de développement, pas tant que ça. Et au contraire, on a dû pas mal discuter, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on allait utiliser, comment, etc. Donc oui, ça nécessitait pas mal de discussions. Pour cadrer le projet.
Quand on parle de sensibilisation, c'est pas que pour le grand public, c'est aussi pour les développeurs et développeuses finalement.
Exactement, d'ailleurs on a un des game designers qui est intervenu qui au début n'était pas du tout intéressé par cette thématique et qui à la fin disait oh là là, mais c'est très important, je vais changer toutes les applis de mon téléphone, etc.
Génial.
Parce que d'avoir travaillé ensemble dessus, bah oui, ça donne à comprendre pas mal de choses, quoi.
Et vous parlez du fait que ça vous a pris un certain temps. Est-ce qu'on peut le chiffrer, ce temps, Natalia?
Illimité. En nombre d'heures, en nombre de cafés. Non, alors, en réalité, c'est un projet qui a duré déjà... Alors, Quentin, peut-être corrige-moi si je me trompe, mais on est plus sur 3 ans dès l'idée jusqu'au lancement et on est maintenant plus dans la phase de communication, diffusion et la recherche. Peut-être on parlera plus tard de ce volet-là qui accompagne le jeu, mais effectivement c'est un projet au long cours.
Et on n'a pas parlé de comment le projet a été financé. Vous souhaitez peut-être en parler parce qu'il faut aussi des financements. 3 ans c'est long, il faut payer toutes ces équipes. Quentin, Natalia? Oui. Natalia, peut-être, ce que vous voulez. Allez, Natalia. Et puis Quentin pourra compléter.
Je suis autodésignée. Oui, alors ce projet est cofinancé par trois parties. C'est alors pas des parties politiques, par trois partenaires. C'est la Fondation Maïf pour la recherche, pour le volet recherche, l'association Prévention Maïf, qui est donc une association à but non lucratif et qui finance des actions de prévention, et La Boussole qui cofinance également ce projet. Et c'est comme ça justement qu'on a pu avoir des fonds et proposer ce projet de façon libre et gratuite.
Est-ce qu'il a fallu... comment ça s'est passé? C'est-à-dire vous aviez déjà l'idée en tête et coup de bol, il y a un appel d'offres, il y a la possibilité de candidater pour un financement de la part de structures de la MAIF, ou bien vous avez vu passer leur proposition de financement, vous avez candidaté, comment ça s'est passé? Quentin, peut-être?
Alors on avait cette idée en effet qu'on voulait développer et en effet coup de bol il y avait eu un appel d'offres de projets de recherche autour de la sensibilisation au risque numérique qu'on avait vu passer du côté de la Fondation Maïf pour la recherche et du coup on avait commencé à discuter avec eux pour voir si c'était possible de monter quelque chose et ils et elles nous ont orientés aussi vers l'association de prévention pour qu'on puisse monter ce projet à trois structures.
Et est-ce qu'il a, il a fallu les convaincre pour ce qui est de, du code libre, de la licence libre attribuée au jeu ? Ou c'était déjà... c'était pas un sujet de discussion ?
Alors, ils étaient déjà très ouverts sur la question et très informés parce qu'il y a... il y a tout un volet en fait de production de savoir à but non lucratif pour que ça bénéficie, on va dire, au public. Donc dans la démarche, on a tout de suite pu trouver un accord dans ce sens-là. Et après, c'est surtout des discussions très concrètes qu'il a fallu avoir sur quelle licence, sur quel composant pour protéger aussi en même temps la création.
Mais ils vous ont fait confiance, voilà. Vous ne vous sentiez pas bridé ni sur la licence, ni sur le contenu du jeu, finalement.
Oui, c'est ça. C'était vraiment une discussion.
Très bien. Claire, tu as une grande chose, tu nous disais. Par rapport aux autres jeux, qu'est-ce qu'il a, Gawain Blaze, en plus, qui le fait sortir du lot, du point de vue vraiment ludique ?
Déjà, au premier abord, je dirais les graphismes, qui sont très spécifiques, et moi, je les trouvais très jolis. Et puis c'est finalement un gameplay qui est assez original aussi, parce que il y a d'autres jeux comme ça qui se jouent par dialogue, et mais là ça assemble plusieurs choses, puisqu'il y a les mini-jeux où on peut jouer là complètement indépendamment, et puis il y a la partie discussion avec les personnes où ça, ce qu'on répond influence le chemin qu'on va prendre, et puis après on obtient du coup des fins différentes en fonction de ce qu'on a fait comme choix dans le jeu. Et donc ça, j'ai trouvé ça assez original. J'ai pas vu d'autres jeux... il y a des jeux qui ont certains éléments, mais tout ça mélangé, j'en ai jamais vu d'autres comme ça.
Merci. Moi, je suis pas une grande joueuse. Donc les mini-jeux, effectivement, m'ont fait penser à d'autres choses que j'aurais pu voir, mais je suis pas du tout experte. Et je suis d'accord avec toi, c'est super sympa, cette histoire qu'on est... presque dérangé. À bout d'un moment, il y a des personnages qui nous disent « Désolé, je t'embête, tu fais peut-être des choses. » Et c'est vraiment, quand on t'en disait, hyper immersif. Et donc, merci pour ce témoignage, vu que tu es une grande joueuse. Tu peux témoigner, en fait, de l'originalité du jeu. Il m'intéresse de laisser beaucoup de temps à l'aspect recherche, parce que je sais que c'est un sujet très important pour vous. Et donc, je vous propose de faire une pause musicale là, et puis de reprendre la discussion tout plus tard. Donc pour la pause musicale, je démarre par une petite présentation, ça mérite, parce que All Los Rego est un trio de rock progressive et post-rock issu de la scène locale galicienne, dont on a déjà diffusé de la musique dans des précédentes émissions. Et ce groupe vient tout juste de publier un deuxième album, qui est aussi bon que le premier. Et en plus, Quentin nous avait dit qu'il aimait aussi le post-rock. Donc je me suis dit, allez, on va partir sur ça. Donc nous allons donc écouter Orbi par Ollo Lostrego, et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. Poderlo.
venons d'écouter Orbita par Ollo Lostrego, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY et SAP.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavani de l'April. Cet épisode de Libre à vous est consacré à Gawain Blaze, jeu libre d'enquête narrative sur Android pour sensibiliser à la protection des données personnelles. Nous en parlons avec Natalia Calderon-Beltran et Quentin Harada de la coopérative de formation et recherche La Boussole, éditrice du jeu, et avec Claire Divois, bêta-testeuse du jeu. N'hésitez pas à participer sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc juste avant la pause musicale, je disais que la recherche, Quentin même le disait au début de son intervention, la recherche est un volet aussi important que le jeu en lui-même. Donc on va aborder ce point qui est très important pour vous. Natalia, je te passe la parole.
Oui, merci. Alors, ce projet, comme le disait Quentin au début, est vraiment sur deux volets. Il y a l'aspect jeu, mais il y a aussi l'aspect recherche. Pourquoi ? Parce que, comme on vous disait au tout début, on a vraiment envie de sensibiliser à la protection des données personnelles par le biais du jeu, mais c'est aussi un pari que nous faisons, c'est-à-dire que comme ce jeu est tout nouveau et qu'à notre connaissance, c'est la première fois qu'on essaye de sensibiliser à la protection des données personnelles via un jeu de ce type-là, en réalité, on fait le pari que ça va marcher, mais on n'en sait rien. Donc du coup, dans le jeu, nous avons d'un côté embarqué un questionnaire qui arrive en toute fin de jeu, et donc bien sûr, ce questionnaire correspond également à notre éthique, c'est-à-dire qu'on veut recueillir des données d'utilisation du jeu, mais toujours avec le consentement explicite et éclairé. On ne prend pas en traite les joueurs et joueuses. Et on leur demande de répondre à un questionnaire s'ils et elles le souhaitent. Et ça nous donne des données sur comment ce jeu aura eu ou pas une influence sur leur usage et pratique du téléphone portable. D'un autre côté, on couple la sortie de ce jeu à une recherche un peu plus qualitative en suivant un groupe de personnes pour comprendre les usages de avant le jeu, une fois ils ont joué une fois au jeu, et quelques mois après pour voir si justement il y a eu ou pas un changement de comportement. C'est vraiment notre question principale. Est-ce que avec une expérience ludique et immersive, on arrive vraiment à changer les pratiques des individus?
Ce groupe qui est la cible de l'étude, on va dire, il est déjà formé? C'est déjà en route ou ça viendra dans un deuxième moment?
Non, le groupe existe déjà, donc on l'a constitué pendant qu'on faisait toute la partie de développement du jeu, et on a profité justement pour les interroger et connaître les pratiques avant avoir joué au jeu.
Très bien. Quentin, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur cet aspect recherche ?
Alors, sur l'aspect recherche, pas forcément, mais par contre, on peut peut-être vous parler de ce qui se passe après le questionnaire. En fait, on a choisi de développer, en s'appuyant notamment sur le projet libre Exodus Privacy, un outil d'audit qui apparaît à la fin du jeu, qu'on appelait le CAT scan, et en fait qui
CAT comme chat.
Exactement, ouais. On a
beaucoup il y a beaucoup de chats dans le jeu là.
Gao c'est un chat, donc la mascotte. Voilà, il y a des emojis de chats, il y a plein de, et donc il y a le CAT scan à la fin qui en fait permet de scanner un peu son téléphone, et donc très concrètement ça va faire des requêtes sur la base de données d'Exodus Privacy, et après ça donne une note très simple. Un peu comme le Nutri-Score, voilà, qui va nous indiquer si ce qu'on mange est trop gras, trop sucré, trop salé, ou au contraire si on peut en manger plein. Et va faire ça avec chacune des applications qui est scannée sur le téléphone, et donner une note globale. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y a un outil hyper simple et hyper visuel pour se dire, bah voilà, telle appli, elle a l'air de demander de récupérer trop de données, trop de permissions, etc. Je vais essayer de chercher une alternative. Et l'idée, c'est vraiment de donner un outil aux gens pour pouvoir un peu, si ils et elles elles le souhaitent, changer leurs pratiques, trouver des applis alternatives, libres idéalement, pour qu'il y ait vraiment un volet très pratico-pratique de « Ok, j'ai fait cette expérience, ça me parle, j'ai envie de changer, comment je fais ?» Vraiment très simplement.
Ça tombe bien parce que tout à l'heure, on va interviewer le président d'Exodus Privacy, donc qui va nous expliquer un peu plus en détail comment ça marche, la plateforme et l'application. Claire, est-ce que tu es arrivée tout au bout du jeu? Est-ce que tu as fait cette partie du CAT scan?
Oui, au début ça marchait pas, mais après, maintenant ça fonctionne.
Bêta testeuse, ça voilà, veut dire un jeu bêta.
Mais maintenant ça fonctionne, oui. Et du coup, moi j'ai déjà des pratiques, par exemple je laisse jamais mon GPS allumé sur mon téléphone, j'ai pas d'application comme Facebook ou des choses comme ça, donc c'était plutôt pas trop mal. Bon, c'est jamais parfait parce que de toute façon c'est Android, donc c'est Google, mais comme on disait, on peut passer vers d'autres choses, mais là on peut plus jouer à Gao Blaze. Et voilà, donc moi, j'ai quand même remarqué qu'il y avait certaines applications à laquelle je m'attendais pas, qui soient aussi demandeuses de choses, par exemple la position pour des choses qu'il n'y a pas besoin normalement, ou d'aller accéder aux contacts alors qu'on se demande mais pourquoi ils ont besoin des contacts, je ne sais pas si c'est pour une application de musique ou un truc comme ça.
Donc, comme tu disais tout à l'heure, malgré le fait que tu es une personne avertie, tu as quand même appris des choses.
Oui,
aussi.
Tout à fait.
Donc on parle de jouer, de découvrir le jeu, on n'a pas encore dit comment on fait pour jouer. Comment on fait pour jouer à Gao Blaze? Quentin ?
Alors, pour jouer à Gao Blaze, il vous faut un smartphone sur Android déjà. Ça peut être une tablette, c'est OK. Et ensuite, donc, vous avez trois manières de télécharger. Donc, pour qu'il soit disponible vraiment à un large public, pas forcément averti, on l'a mis sur le Google Play Store. Il est aussi disponible en téléchargement direct en APK sur notre site, le site
c'est
du jeu.
C'est quoi l'APK ? Parce que je ne peux pas croire que notre public ne
sont
pas tous au
courant. C'est les fichiers d'installation des applications sur smartphone Android, tout simplement. Donc vous pouvez l'installer directement comme ça aussi depuis notre site. Vous pouvez faire les vérifications aussi d'empreintes pour vous assurer que c'est le bon fichier. Et on est en train de faire le processus pour le mettre sur F-Droid, qui est un magasin d'applications libres sur Android. Voilà, le processus est en cours actuellement.
Et c'est peut-être intéressant de dire comment ça marche. Parce que, en fait, Gao Blaze, la soirée de lancement de Gao Blaze a été il y a quelques semaines, voire mois déjà, je ne sais plus.
Oui, on a fait le premier lancement officiel le 30 novembre.
Ah, le 30 novembre, donc ça remonte à 2021. Et donc, on espérait vraiment que pour l'émission d'aujourd'hui, le jeu soit déjà disponible sur le magasin d'applications F-Droid. Mais malheureusement, il n'y est pas encore. Il est là. Hein, c'est vraiment question probablement de quelques jours. Mais il n'y est pas encore. Et donc, ça peut être l'occasion d'expliquer comment ça marche, comment on fait pour mettre une application sur F-Droid. Je ne sais pas si Natalia souhaite en parler.
Oui, tout à fait, je peux vous en parler. Alors, bien évidemment, je n'ai pas du tout le bagage technique pour vous expliquer tout en détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le F-Droid, qui est donc ce magasin libre d'applications libres pour Android, fonctionne comme beaucoup de projets de logiciels libres, à savoir avec des bénévoles, donc c'est pas du tout les mêmes modalités de soumission que sur le Google Play Store. Déjà parce que, alors à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait une énorme équipe salariée à F-Droid, donc forcément ça prend beaucoup plus de temps de soumettre, et il y a un processus de contrôle pour vérifier que justement l'application qu'on soumet répond bien aux critères du logiciel libre, et en plus s'il y a des fonctions qui sont indésirables ou pas. Donc le processus de test de l'APK est beaucoup, donc de l'APK, donc du fichier qui contient le jeu, est beaucoup plus long que dans le Google Play. À ce propos, je pourrais aussi vous partager une petite anecdote. Quand on soumet donc une application pour le Google Play, il y a un certain nombre de caractéristiques qu'elle doit avoir, et notamment une page où sont mises les conditions d'utilisation des données. Donc on se dit, ah bah marrant que Google Play soit si pointilleux pour ces questions-là. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'on pouvait tout simplement mettre une URL de n'importe quoi qui s'appelle conditions d'utilisation, et on aurait pu mettre des photos de chats. Google Play vérifie ça de manière automatique, et ce que nous avions pris par du zèle et de l'attention à la protection des données, c'est simplement quelque chose qui se valide de manière mécanique avec une URL qui est mise. Alors, bien sûr, on va pas défendre le Google Play, et on sait aussi qu'il y a beaucoup d'applications qui sont soumises, donc à un moment, ils doivent automatiser leur processus. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que en réalité, il n'y a pas ce contrôle manuel qui est fait dans F-Droid. Et donc, forcément, sur F-Droid, c'est beaucoup, beaucoup plus long.
Merci pour cette anecdote, pour ce retour d'expérience. On a dit donc comment faire pour jouer. Bien évidemment, dès que le jeu sera disponible sur F-Droid, nous l'annoncerons au cours d'une prochaine émission. Comment jouer, c'est important, mais on a parlé de c'est un projet qui est aussi un projet participatif. Et donc, comment faire pour contribuer? Quelles sont les modalités pour contribuer, Quentin?
Alors, il y a plein de modalités pour contribuer. La première, c'est tout simplement de jouer, de faire tourner un peu l'information, voilà, de proposer à des gens d'y jouer. Ce sera d'autant plus simple que c'est un jeu qui est gratuit, libre et respectueux de vos données, donc normalement, ça lève quelques obstacles. Et en jouant aussi, ça permet, quand vous finissez le jeu, de participer à notre recherche, ce qui est quand même important. C'est une recherche qui est libre aussi, hein, dont on va publier les résultats, dont évidemment c'est des résultats anonymes. Et l'autre manière de contribuer, ça peut être d'apporter une contribution au code, justement pour permettre de pérenniser aussi le jeu dans le temps, parce qu'on sait que les versions d'Android, en fait, ça file très vite, il en sort très régulièrement, et un logiciel développé sur Android, il peut vite devenir obsolète, et donc il y a tout un enjeu de maintenir le code, etc. Donc comme c'est un projet libre, notre code, il est évidemment disponible, il est sur GitLab, qui est aussi une plateforme libre pour le coup, voilà, s'il y a des personnes compétentes dans ce domaine, ça sera intéressant aussi pour que ce jeu devienne aussi une sorte de propriété collective et communautaire, de contribuer à sa pérennité.
On a parlé de jeux libres, de licences libres. Le site de la boussole est sous licence libre aussi. Et une personne avait remarqué que ce n'était pas le cas pour le site de Going Blaze. Je crois qu'il y a une clause NC, non commerciale. Donc je me permets de remonter une question. Bon, pourquoi ce choix, vu que tout le reste est vraiment axé sur la licence libre?
Eh bien, en fait, initialement, on était parti... donc, le jeu, pour le coup, il est sous une double licence, parce qu'en fait, il y a la partie du code informatique qui est en AGPL, et les contenus...
AGPL,
donc...
c'est... Oui, c'est une licence libre.
Voilà, c'est une licence
très
libre
utilisée pour
le code informatique. Voilà. Et les contenus, donc, les images, les graphismes, etc., sont sous licence Creative Commons, attribution et partage à l'identique. Donc sont bien des licences libres. Et en fait, au tout début, le jeu, il était avec une clause NC non commerciale, parce qu'on voulait pas justement qu'il y ait de réutilisation commerciale du jeu, parce qu'on pensait aussi que c'était une manière de le protéger contre une éventuelle prédation, en fait, qui consisterait à changer les icônes, refaire le même jeu et puis le commercialiser. Mais bon, de fait, quand on met une clause non commerciale, à proprement parler, ça devient plus une licence libre. Et du coup, on a laissé tomber cette clause. Et en fait, on a tout simplement oublié de la retirer du site aussi.
Voilà.
C'est des fois, les choix se font de manière assez inconsciente et passive. Et donc, c'était suite à cette évolution. Ce qui me permet de dire qu'en fait, s'il y a d'autres gens que ça intéresse de placer leur projet sous licence libre, souvent, on peut avoir l'idée que les licences libres, elles protègent pas trop de la prédation, justement. Et en fait, c'est pas forcément vrai. Il y a des clauses qui existent, que ce soit dans la licence AGPL, etc., qui permettent vraiment d'empêcher qu'une autre entité vraiment reprenne votre projet, retire votre nom, mette son logo à la place. Vraiment, il existe réellement des clauses pour protéger de ça. Et on n'est pas forcément obligé de recourir à la clause non commerciale, par exemple, en Creative Commons.
Parfait. Claire, alors d'abord une petite expérience personnelle. J'ai joué au jeu. Et à un bout d'un moment, j'ai stagné. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il y avait une deuxième partie qui devait arriver. Mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Et en fait, Natalia m'a dit, mais effectivement, il y a une deuxième partie. Et puis, la CAT scan. Donc, probablement, tu n'avais pas peut-être finalisé certains jeux. Toi, Claire, tu as réussi à arriver jusqu'au bout du jeu ?
Alors, au tout début, la première fois que j'ai joué, je suis arrivée au bout avant d'avoir fini la première partie.
Ah
donc, j'ai eu la fin avant d'avoir fait... parce que, de nouveau, comme on disait, c'est le bêta-test. Donc... Mais après, en le refaisant, j'ai pu voir... en fait, à un moment, quand on fait plusieurs fois le jeu, on comprend qu'est-ce qui déclenche, la suite, quoi. Et du coup, j'ai pu arriver à faire toute l'histoire dans l'ordre et arriver à la deuxième partie et puis à la fin.
Et Natalia, justement, je t'avais demandé si une personne comme moi, elle n'est pas trop pratique de jeu, elle peut vite se décourager si elle ne trouve pas comment arriver à la deuxième partie. Et du coup, je crois que tu m'avais dit que vous aviez pris en compte cette possibilité et écrire, élaborer, développer une page pour donner des astuces, mais sans trop dévoiler la trame, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. C'est un retour que nous avons eu. Alors, sans faire de l'agisme, il y a des personnes plutôt qui ont un profil qui jouent beaucoup et d'autres qui jouent un peu moins. Alors, et je le dis en connaissance de cause, Quentin, Claire joue beaucoup. Moi, je pense que la dernière fois que j'ai joué un jeu vidéo, c'était probablement Tetris. Donc, c'est pas du tout. Je n'ai aucune expérience. Et c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir dire aux personnes comment on joue à ce jeu quand on n'a pas l'habitude de jouer. Donc, c'est pas en réalité des consignes très très longues, et on les a rajoutées sur le site du jeu qui est gaoandblaze.org. Et donc le conseil qu'on donne, c'est vraiment de tester tous les Gao Games, de faire avancer les discussions, et en particulier avec Alex et Nikki, clin d'œil, mais on va pas spoiler davantage le jeu, parce que l'idée, c'est vraiment que les auditeurs et auditrices aient envie de le télécharger, jouent sans qu'on vous spoil plus que ça. Après, sachez que si vous allez sur la page du jeu et que vous le lisez en long, en large et en travers, vous pourrez trouver certains des spoils, mais c'est pas l'idée, c'est pas qu'on vous gâche votre expérience de jeu.
D'ailleurs, tu parlais d'une page, d'une, comment dire, il y a des pages sur le site où il y a un espèce de cadenas et c'est marqué. Bah, c'est peut-être pas la peine, c'est peut-être pas intéressant pour vous de lire tout de suite ces pages parce que ça peut trop dévoiler sur l'histoire. Mais moi, j'ai préparé l'émission, donc j'ai ouvert le cadenas, je suis allée voir et j'ai trouvé des ressources pédagogiques super bien faites. Vraiment super bien faite, c'est-à-dire que vous mettez aux dispositions aussi sur le site de Gaoandblaze des outils pédagogiques qui peuvent être super utiles pour des enseignants, enseignantes, pour des animateurs, animatrices dans un UPN. Donc ça, c'est, j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu embêtée parce que je disais, ah c'est super ces ressources, mais en même temps, mais elles sont derrière le cadenas, donc comment faire ? Peut-être que vous prévoyez de les mettre à disposition à un autre endroit
Oui, alors j'ai très envie de répondre à cette question pour une raison, c'est-à-dire qu'on a fait un effort de produire des ressources, merci pour les compliments. En réalité, Internet regorge de ressources super intéressantes pour savoir quoi faire pour mieux protéger ses données personnelles. Mais si on les a mis un peu sous cloche, donc derrière un cadenas en disant « n'y allez pas trop », c'est aussi parce qu'on croit à notre démarche. Ça veut dire quoi ? On croit qu'il faut jouer au jeu et ce n'est qu'après que la personne va être réellement prête à comprendre le contenu de ce qu'il y a là. C'est-à-dire que nous, on veut pas, pour faire de la sensibilisation, on veut pas sauter les étapes, on veut pas aller directement aux ressources et au savoir quoi faire, mais vraiment laisser que les personnes puissent très progressivement jouer et ensuite d'elles-mêmes aller chercher ce qui les intéresse de manière progressive de manière lente, parce qu'on veut vraiment éviter le syndrome de l'indigestion, à savoir que bim, les personnes tombent sur un énorme bottin de choses à faire et finalement elles disent oulala, il y a trop de choses à faire, je me décourage et je laisse tomber. Et c'est vraiment le travers qu'on a voulu éviter à tout prix. Donc les ressources sont là pour que les gens puissent faire le premier petit pas possible, mais vraiment à leur vitesse, sans urgence, sans pression et sans l'idée qu'il faut tout faire ou tout laisser tomber, parce qu'on peut vraiment se laisser le temps, faire tout de manière progressive. Et ça répond aussi à ce que nous, on a fait, c'est-à-dire que aussi bien Quentin que moi, on n'est pas né avec un téléphone, avec une custom ROM, c'est-à-dire un Android personnalisé, sans Google. Non, vraiment, on a pris le temps, on a fait des compromis à certains moments. Des fois, on peut utiliser des services qui ne sont pas tout à fait éthiques, mais vraiment en connaissance de cause. Et c'est la démarche qu'on veut soutenir. On cherche pas on cherche à être le plus exemplaire possible, mais on comprend aussi que des fois, il y a des choses qui peuvent être plus pratiques et on veut pas être dans une démarche de culpabilisation, mais vraiment très progressive et d'accompagnement. Pour que les gens adoptent les logiciels libres et protègent mieux leurs données personnelles, mais en douceur.
Quentin, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, je pense que dans le fond, ces ressources, comme beaucoup de ressources qu'on peut trouver sur Internet, elles répondent à la question « quoi faire et comment faire ?». Mais en fait, avant cette question, il y en a une qui est essentielle et pour laquelle nous, on essaie de répondre avec ce jeu, c'est « pourquoi ?». Pourquoi, quand j'estime que j'ai rien à cacher, je me préoccuperai de ça? Et en fait, c'est vraiment à ça qu'on essaye de répondre avec ce jeu. Pourquoi ça peut me concerner, en fait? Pourquoi ça peut concerner n'importe quelle personne sur plein d'aspects de sa vie? Et en fait, je pense que c'est ça qui est très important aussi.
Pourquoi moi?
Exactement. Pourquoi tout le monde même?
Voilà, pour surtout ne faites pas comme l'animatrice, n'allez pas zioter derrière le cadenas. Faites cette expérience de jeu qui est super chouette. Pour l'avoir fait, je peux en témoigner. Est-ce qu'il y a déjà eu des retours, vu que le jeu a été déjà lancé? Est-ce que vous avez déjà des commentaires, des personnes qui vous écrivent? Quentin?
Oui, on a eu des retours notamment de personnes impliquées dans la question de la sensibilisation, qui nous ont dit que c'était intéressant, qu'en effet il n'y avait pas beaucoup de jeux, pas beaucoup d'approches comme ça, et ça faisait plaisir parce qu'on a eu un accueil très positif des communautés libristes ou de protection de la vie privée qui nous ont dit mais pas de souci, on va relayer, etc. Même grâce à vous, bien sûr. Donc ça nous a encouragé dans le fait que on espère viser juste et maintenant vraiment l'enjeu c'est de le diffuser au maximum parce que on n'est pas une grosse multinationale du jeu vidéo, on n'a pas des moyens illimités. En fait, on est quand même des équipes plutôt petites à la boussole et vraiment c'est grâce à la communauté, je pense, qu'on arrivera à faire tourner ça et à obtenir on l'espère un impact réel.
Claire, est-ce que tu as passé le jeu à d'autres personnes dans ton entourage qui peut-être n'étaient pas encore sensibilisées?
J'en ai parlé notamment à mon frère qui travaille aussi en Belgique sur la protection des données, ce genre de choses, mais je ne sais pas s'il l'a encore joué, il ne m'en a pas reparlé. Et j'en ai parlé autour de moi à toutes les personnes que je connaissais, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de retour personnellement des gens à qui j'en ai parlé.
D'accord, donc le temps file vite, c'est toujours le cas à la radio. Donc je vous propose de passer au tour final, le mot de la fin. Quel message souhaitez-vous vous faire passer aux personnes qui nous écoutent en moins de 2 minutes, si possible? Je vais commencer par Natalia.
Oui, alors mon message, c'est aller sur gaoandblaze.org, jouer au jeu et diffusez-le le plus largement possible.
En moins de 2 minutes, en moins de 30 secondes même.
Ah, j'avais 2 minutes pour moi toute seule. Ah oui, peut-être que je rajoute un autre élément, le jeu existe
Vas-y.
En 3 langues. En français, en anglais et en espagnol. Ah. Donc vous pouvez même l'envoyer à vos copains, copines, amis qui parlent ou l'espagnol ou l'anglais.
Super. On a oublié de dire que on peut rajouter que contribuer à un logiciel, ça peut vouloir dire non seulement coder. Oh, j'ai un peu d'écho. Non seulement coder, mais aussi par exemple traduire. Donc voilà. Et Claire, est-ce que tu as un message à faire passer?
Bah, je voulais dire à peu près la même chose que Natalia sur le fait de jouer. C'est vraiment un jeu intéressant et quel que soit votre niveau en jeu vidéo, je pense que ça plaît à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir des prérequis. Et après, pour ce qui est d'avoir peur d'être coincé, un peu comme on a dit tout à l'heure, au plus on sera à jouer, plus il y aura une communauté de joueurs qui pourront s'entraider aussi. C'est aussi ça, moi, je trouve, le jeu vidéo, c'est d'aller voir un peu les solutions des autres et sans dévoiler tout, mais d'avoir de l'aide de la communauté. Autant pour faire la com du jeu que pour aussi les joueurs se retrouver qu'est-ce qu'on a bien aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, ce genre de choses.
Ce qui me fait venir en tête une question qui je pense est intéressante, est-ce que vous avez prévu un endroit où la communauté des vrais joueurs, pas les joueurs fictifs mais les vrais, pourront se retrouver, Quentin ?
Alors pour l'instant non, parce qu'on n'a pas forcément aussi tout ce qu'il faut pour assurer derrière en termes d'animation, de communauté, etc. Mais c'est quelque chose auquel on réfléchit, peut-être déployer un Discord, quelque chose comme ça. À minima pour le débugage, les gens peuvent aller sur GitLab, mais je dirais pas non plus que c'est un réseau social à proprement parler, mais on y réfléchit.
Très bien. Bah, écoutez, je remercie beaucoup pour avoir participé à notre mission, pour nous avoir présenté ce jeu mobile, donc pédagogique, pour sensibiliser à la protection des données personnelles. Et vous nous tenez au courant, donc comme ça on peut annoncer dès qu'il est disponible sur F-Droid.
Super.
Merci encore.
Merci.
Merci beaucoup.
Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de l'association Exodus Privacy qui fournit des outils pour analyser les applications Android et lister les éventuels pisteurs. Pour cette troisième et dernière pause musicale, je vous propose un titre un peu foufou entre le pop et le jazz que j'ai déniché par hasard sous le site bandcamp.com. C'est un morceau que je trouve très marrant personnellement, qui me met de bonne humeur. J'espère que ça vous plaira. Nous allons donc écouter Laughing Alone par Square People et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune,
écoutez Laughing Alone par Square People, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions
sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous,
libre à vous.
L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Puis en podcast.
Je suis Isabelle Lavani, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec notre troisième et dernier sujet du jour. Nous allons parler de l'association Exodus Privacy qui fournit des outils pour analyser les applications Android et lister les éventuels pisteurs. Nous allons le faire avec le président et cofondateur de l'association, Louis Neuf, qui participe à distance via l'outil libre d'audioconférence Mumble. Bonjour Louis.
Bonjour, Louis Neuf, bonjour plutôt. Tout le monde. Ah, vous m'entendez ou pas?
Oui, je crois que oui. Je crois que je t'entends très bien. Donc, comme d'habitude, on commence par une courte présentation personnelle. Louis Neuf, j'étais un peu étonnée de ce pseudonyme. Il y a sûrement une histoire hyper intéressante à raconter dessus, c'est ça?
Oui, il y a une histoire hyper intéressante, mais on ne va pas refaire l'histoire du Moyen-Âge. Ce serait trop long. Ça nous prendrait quelque chose comme 1000 ans, donc on va laisser tomber. J'ai juste été très impressionné par le livre de Georges Duby sur le sujet, voilà.
D'accord.
Et sur le personnage lui-même, voilà.
Et je crois que tu définis aussi sur le site de l'association Exodus Privacy, je ne l'ai plus sous la main, mais je crois que tu t'es défini le roi de quelque chose, c'est ça?
Le roi des backups, oui, je crois que c'est ça, c'est ce qu'on m'a affublé, puisque je m'occupe des backups et des serveurs dans l'association au départ. Maintenant, je fais plein d'autres choses, et de moins en moins, l'infrastructure, c'est notre ami Codimps, qui est secrétaire également, qui s'en occupe le plus. Je suis toujours les mains dedans, hein.
Très bien. Bah, c'est le moment, du coup, je pense, de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est Exodus Privacy? C'est quoi cette association?
Alors, c'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif, dont le but est de sensibiliser le maximum de personnes non averties aux enjeux de la vie privée, exactement comme le jeu Gao and Blaze, puisqu'ils utilisent nos données. Enfin, nos données. Ils utilisent, forcément, ils ont le droit. D'ailleurs, félicitations à la boussole pour leur magnifique travail. Donc, à partir de là, nous, on a créé une plateforme qui permet à tout un chacun de présenter son application, l'application qu'il préfère, et de la voir analysée en une minute ou deux, et d'avoir donc le nombre de pisteurs et les permissions qu'elle contient, et savoir si cette application est, du coup, vraiment utile ou pas. Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on trouvera une alternative? Et c'est encore une fois comme un peu dans le jeu Gao and Blaze, le but n'est pas de donner les clés, mais d'essayer d'inciter les gens à les trouver eux-mêmes. Voilà comment ça se passe. À vous de réfléchir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette application? Quelqu'un qui se rend compte que son appli de suivi de diabète contient des pisteurs, il peut pas s'en passer. C'est vital pour lui. Donc, bah, il peut pas faire autrement. Par contre, une lampe de poche qui me demande l'accès à mes contacts, est-ce que c'est normal? Toute la question est là. C'est à chacun de se poser la question.
Merci pour ces exemples très concrets. Avant qu'Exodus Privacy, l'association, soit créée et avant que cette application soit rendue disponible, il y avait aucun outil en fait pour constater cela. Il fallait à la limite essayer de demander. On n'avait pas de choix en fait. Donc, c'est vraiment un besoin que vous avez satisfait.
En fait, toutes les informations sont sur le Google Play Store. Chaque description d'application a ces informations. Il faut juste savoir les décoder. Et c'est pas forcément évident, et on n'a pas forcément le temps non plus. Alors qu'effectivement, là, on est arrivé avec un outil simple à utiliser et qui nous donne un résultat rapidement pour toutes les applications qu'on veut. Et toutes les applications que les gens ont demandé, dont les gens ont demandé l'analyse précédemment, puisqu'on a plus de 120 000 applications dans la base de données et plus de 200 000 rapports. Donc, l'application qu'on cherche est peut-être déjà analysée. Et si elle n'est pas, on l'analyse et on a la réponse tout de suite, ou presque.
120 000 applications déjà analysées. Je me demande quand une application sort, en fait, alors comment ça se passe? Il y a des personnes qui vous indiquent, qui vous signalent des applications, vous faites une veille des applications sur Android qui sortent. Comment vous décidez quelle application étudier?
Nous ne décidons absolument rien. Ce sont les utilisateurs qui vont sur la plateforme, qui se disent « Tiens, il y a une nouvelle application qui m'intéresse. Combien contient-elle de pisteurs ? Je vais aller demander à la plateforme Exodus. » On rentre l'URL donnée par le Google Play Store et 10 secondes après, on a la réponse, tout simplement. Donc, nous, on ne choisit pas. Ce sont les gens qui choisissent. La seule chose que nous choisissons, entre guillemets, c'est le fait que l'application doit être gratuite parce qu'on n'a pas les moyens de l'acheter pour pouvoir l'analyser nous-mêmes. Ça nous coûterait énormément d'argent et on n'a pas des moyens extraordinaires non plus.
Bah, on va parler tout de suite de ça. C'est-à-dire, est-ce que l'association, quel est le modèle financier de l'association? Est-ce que vous êtes en mode bénévole, salarié, mixte? Et comment vous financez vos actions?
Bah, nous sommes uniquement bénévoles, toutes et tous. On donne notre temps supplémentaire. Le temps qu'on ne passe pas à dormir, manger, travailler et s'occuper de notre famille à l'association. On est financé par les dons uniquement. Même si on a eu quelques partenariats avec des institutions prestigieuses comme le ministère de l'Éducation nationale qui nous a demandé de leur installer une instance privée et qui nous a rémunéré pour ça. Mais sinon, c'est les dons qui sont notre moteur principal,
et
avec l'énergie bénévole.
Et vous souhaitez rester comme ça, si j'en déduis.
Tout à fait, on est très bien comme ça. On cherche des bénévoles, toujours, tout le temps, comme tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de bagage technique, c'est pas nécessaire. On trouvera quelque chose à vous faire faire et à vous apprendre, si vous avez envie d'apprendre. On est toujours prêt à aider les autres à s'impliquer dans l'association.
C'est important de préciser qu'il n'y a pas besoin de bagages techniques parce que, par exemple, moi, bien évidemment, j'avais entendu parler d'Exodus Privacy. Je crois même l'avoir installé, pas forcément encore utilisé, mais j'avais en tête, en fait, une équipe de geeks, de techniciens, techniciennes, voilà, qui mettaient à jour l'application et j'avais pas beaucoup de choses à faire là-dessus. Et là, tu me dis, non, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut participer. Est-ce que tu peux faire peut-être un cas concret pour donner envie?
Ah bah, le cas concret le plus simple, c'est celui de notre ancienne présidente, Mettel Pou, qui est arrivée au bout de 6 mois dans l'association, six mois après son existence, qui était à l'époque médiatrice en médiathèque. Qui n'y connaissait absolument rien et qui au bout de 6 mois est devenue présidente et a fait a monté les échelons petit à petit et est devenue de plus en plus technique en faisant des choses qu'elle n'imaginait même pas faire au départ et puis finalement elle s'y est mise parce qu'on l'a aidée et qu'on l'a épaulée et on lui a fait la courte échelle et tout s'est bien passé. J'espère qu'elle retire une bonne expérience de tout ce qu'on lui a appris.
Parfait. Il y a donc le temps file vite. Hein. Je jette toujours un coup d'œil à l'heure. Je sais que vous avez un gros projet, une grosse actualité en ce moment dont tu souhaitais nous parler. Donc, il s'agit d'un test de kit pédagogique. On voudrait bien en savoir plus. Je te laisse la parole.
Tout à fait, Mettel Pou justement a initié la mise en place d'un kit pédagogique pour les médiateurs et les médiatrices en médiathèque, mais partout, mais donc médiateurs et médiatrices numériques. Et on cherche des personnes pour bêta-tester ce kit dans les cadres réels pour savoir où on s'est planté, où on a bien fait et corriger le tir avant de le mettre en place la version finale. Donc n'hésitez pas à nous écrire contact@exodus www.metal-privacy.eu.org et on transmettra à Metalpo qui sera ravi de vous répondre, ou alors vous allez sur le site de l'association exodus-privacy.eu.org dans les billets de blog, le tout dernier en français, vous avez un formulaire de contact pour pouvoir ensuite être contacté par Metalpo pour pouvoir tester ce kit pédagogique qui vous attend les bras ouverts.
Je me charge de rajouter ces références, hein, les pages où vous pouvez trouver les adresses de contact pour faciliter la mise en relation. Et au-delà du kit pédagogique sur votre site, il y a déjà, Exodus Privacy, quand on entre sur le site, il y a trois choses. Il y a l'application, la présentation de l'application, hein, ce que vous pouvez télécharger sur votre mobile et qui vous permet en quelques minutes, voilà, de faire une analyse, de voir quel pisteur sont sur vos applications. Il y a une plateforme, c'est-à-dire qu'on peut demander directement sur le site de l'association de donner un rapport sur une application. Et il y a aussi des ressources pédagogiques. Tu veux peut-être en parler ?
Alors effectivement, donc l'application qu'on trouve actuellement sur Android, nous, contrairement à nos amis de la boussole, on a plus de facilité à mettre sur Android qu'à mettre sur le Google Play. Notre application a été retirée du Google Play pour des raisons juridiques et on a du mal à la remettre, mais on va y arriver. On va y arriver, vous inquiétez pas, ça vient, ça urge. Il y a la plateforme, donc report.exodus-privacy.eu.org, qui permet donc de soumettre une application à l'analyse. Et il y a effectivement les ressources pédagogiques. Une fois que je sais que je suis pisté, qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon empreinte de pistage? Est-ce que j'ai besoin de l'application de La Poste qui va finalement me donner les horaires de La Poste la plus proche de chez moi et où se trouvent les boîtes aux lettres et qui va envoyer mes données à Amazon, à Google, à Apple, tout ça pour une boîte aux lettres? Est-ce bien sérieux? Donc c'est encore une fois à chacun de voir son usage. Quelqu'un qui cherche la boîte aux lettres la plus proche tout de suite, effectivement, on peut comprendre qu'elle en ait besoin. Peut-être pourrait-il la désinstaller juste après, je sais pas, c'est à voir. Mais on a effectivement des ressources pédagogiques aussi sur le site et le blog qu'il faut lire de temps en temps parce qu'on publie pas souvent non plus, faut reconnaître.
Bah, mais le temps file, malheureusement le sujet se termine. Je remercie vraiment beaucoup l'UNOF pour avoir présenté Exodus Privacy. Je remercie toutes les bénévoles qui participent à ce projet et qui nous permettent de nous outiller effectivement pour en savoir plus sur nos pratiques. Je vous souhaite une bonne continuation pour tous vos projets. Merci beaucoup,
merci à vous et merci à toute l'équipe pour sa gentillesse. Merci.
Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Le samedi 5 mars, commençait la 21e édition de l'initiative de l'April Libre en Fête. Pour accompagner l'arrivée du printemps, chaque année autour du 20 mars, des événements de découverte des logiciels libres et de la culture libre en général sont proposés partout en France dans une dynamique conviviale et festive. L'édition 2022 du Libre en Fête a lieu du samedi 5 mars, comme je vous ai annoncé jusqu'à tout à l'heure, jusqu'au dimanche 3 avril. Vous pouvez consulter le site libreenfete.net, entre chaque mot, pour trouver des événements près de chez vous, notamment des ateliers d'initiation à un logiciel ou à un service libre, mais aussi des projections de films libres ou sur le libre, des fêtes d'installation, de la cartographie participative, des ateliers pour apprendre à mieux protéger son intimité sur Internet, on en a parlé justement lors de cette émission, des soirées d'échange autour des enjeux de l'informatique libre et encore. Et il est encore temps bien sûr de proposer des événements dans le cadre de cette initiative. J'en profite pour remercier très chaleureusement toutes les personnes et les organisations qui l'ont déjà fait. Mardi 22 mars, à quelques jours de l'Assemblée Générale de l'April et pour célébrer les 25 ans de l'association, nous allons réaliser une nouvelle émission spéciale au cœur de l'April. À cette occasion, nous aimerions beaucoup pouvoir lire en direct vos témoignages, vos retours, comment vous avez connu l'April, votre découverte de Libre à vous, si vous avez un souvenir fort, que ce soit en lien avec l'émission ou avec l'association. Tout cela nous intéresse. Vous pouvez nous envoyer ces témoignages d'amour via le formulaire de contact que vous trouverez sous le site de l'émission ou directement par courriel à bonjour@libreavoue.org. Et comme d'habitude, je vous invite à consulter le site de l'agenda du livre, agendadulibre.org, pour trouver les autres événements en lien avec les logiciels libres près de chez vous. Notre mission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission de ce jour. Isabelle Carrère, Natalia Calderon-Beltran, Quentin Arada, Claire Divois, Louis Neuf. Aux manettes de la régie aujourd'hui, mon collègue Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Linguen, bénévole à l'April, et Olivier Gricot, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sous le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Et vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. Et la prochaine émission aura lieu en direct mardi 15 mars 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur Tracim, logiciel libre d'aide à la collaboration d'équipe. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 15 mars et d'ici là, portez-vous bien.